DW. Droits et libertés.
L'une des grandes nouvelles de la semaine dernière, c'était l'annonce, bien sûr, de la ratification d'un premier accord, au moins partiel, entre le Hamas palestinien et le gouvernement israélien. Les pourparlers indirects finaux ont eu lieu en Égypte sur la base d'un plan dont nous vous avons déjà parlé sur cette antenne. Un plan en 20 points qui avait été proposé par l'administration américaine. Le texte, bien que flou dans ses modalités d'application, selon de nombreux experts du Proche-Orient, aura donc quand même permis de faire un pas vers la paix dans une bande de Gaza éreintée par 2 ans de guerre. Nous allons tendre notre micro cette semaine à des Gazaouis qui sont prudemment optimistes, vous allez le voir. Et puis en seconde partie de cette émission, nous reviendrons sur les règles qui prévalent en Allemagne pour lutter contre le harcèlement sexuel de rue. Vous allez voir que la législation n'est pas encore au niveau des voisins européens. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Plus de bombes, plus de drones, plus de morts. Voilà, c'est ça l'espoir de la population gazaoui, celle d'un cessez-le-feu total qui dure. Mais pour l'instant, à Gaza, il n'y a plus d'école. Les 2 années de guerre et les déplacements constants de population ont détruit le maillage social. Près de 80% des bâtiments ont été détruits dans les bombardements israéliens. Presque tous les habitants du territoire ont dû quitter leur foyer à cause des violences. La nourriture, l'eau, les médicaments n'ont pas pu être acheminés aux civils en raison du blocus israélien. Les Nations Unies ont déclaré officiellement l'état de famine dans ce territoire palestinien. L'ONU, dont le personnel se tenait prêt à délivrer immédiatement une aide aux Gazaouis. Tom Fletcher, sous-secrétaire général en charge des affaires humanitaires et coordinateur de l'aide d'urgence des Nations Unies.
So here is what we plan to deliver in the first 60 days of the ceasefire.
Dans les 60 premiers jours du cessez-le-feu, nous allons augmenter les convois pour que plusieurs centaines de camions puissent arriver chaque jour dans la bande de Gaza pour rétablir l'approvisionnement en nourriture, pour en délivrer à 2,1 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire et près d'un demi-million qui souffrent de sous-nutrition. Il faut renverser la famine dans les zones où elle s'est installée et empêcher qu'elle ne se propage à d'autres.
Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, affirme que plus de 60 000 personnes ont été tuées dans le conflit, en majorité des civils, et les Nations Unies accordent du crédit à ces chiffres. Pour les survivants, à Gaza, la vie ne pourra reprendre que petit à petit, comme en témoigne Suzanne Hakel, une mère au foyer déplacée de Toufa, dans l'est de la ville de Gaza, et Eman Jodala, qui est une jeune femme déplacée, elle aussi, psychothérapeute de formation et originaire de Sheikh Radwan, dans le nord de la ville.
Il n'y a plus de joie dans nos cœurs après 2 ans de guerre. Vous voyez les destructions. Gaza est complètement détruite. On rentre chez nous, mais ce sont des ruines. On n'a plus de maison, pas d'eau, pas d'électricité.
On nous a tiré des éboulements dans lesquels j'ai perdu mon père, ma mère, ma sœur et ma famille. Je ne peux pas ressentir de bonheur. Je n'ai envie de rien après avoir enduré toutes ces pertes.
Malgré tout, si les armes se taisent enfin et que le blocus est levé, les Palestiniens de Gaza pourront enfin entrevoir un retour, un jour à la normale. C'est ce qu'espère Yarin Aboul Nadja. Elle vit dans un camp de déplacés de Khan Younes.
Nous sommes très heureux de cet accord. Nous allons pouvoir de nouveau envoyer nos enfants à l'école sans avoir constamment peur. Ils pourront retourner dans la rue sans avoir peur et nous pourrons rester dans nos tentes sans avoir peur. Grâce à Dieu, la guerre est peut-être terminée, même si nos blessures, elles, vont rester.
Écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Vous êtes sans doute des personnes très polies, mais vous savez quand même ce que c'est qu'un doigt d'honneur quand on adresse un signe peu équivoque et peu amène à quelqu'un en attirant son attention sur un majeur levé bien haut. Eh bien, en Allemagne, un droit d'honneur, c'est illégal. En revanche, ça ne l'est pas de faire des remarques ou des gestes obscènes à caractère sexuel. Et les sociodémocrates de centre-gauche donc ont décidé de tout faire pour changer ça. Bientôt, donc, en Allemagne, les cas graves de harcèlement sexuel verbal pourraient être criminalisés. Les sociodémocrates, c'est-à-dire le parti SPD, estiment qu'il existe un vide juridique et qu'il est urgent de le combler. Dans une interview accordée à la Deutsche Welle, Sonja Eichwede, une cadre du SPD, rappelle que le harcèlement sexuel verbal, c'est un problème très répandu, qui touche particulièrement les jeunes femmes et dont l'impact est considérable. Ce type de harcèlement intimide massivement les victimes, rappelle la responsable politique, et les pousse souvent à se retirer des espaces publics. Le langage et le comportement sont ici une forme de violence. Il existe un terme anglais, le catcalling, qui est très utilisé dans le débat qui a lieu en ce moment en Allemagne sur ce qu'on appelle aussi donc le harcèlement de rue. Catcalling, ça désigne littéralement le bruit qu'on fait avec la bouche quand on appelle un chat. C'est un bruit de lèvres, mais ça peut être aussi un appel qui ressemble à un cri de loup en rute ou même des paroles ignobles que de nombreux hommes se permettent, non pas pour appeler un animal en l'occurrence, mais pour tenter d'attirer l'attention d'une femme qu'ils désirent séduire. Et là, on peut quand même se demander qui a pu leur mettre dans la tête que ça pouvait être agréable d'être assimilé à un animal par un inconnu. Alors, en guise d'illustration, voici un court extrait du film « Les Caïras » de Franck Gastambide, un film sorti en 2012. Et dans cette scène, vous avez deux amis qui sont abordés de façon intempestive par un jeune homme dans un centre commercial.
Hey, excusez-moi, d'habitude, je ne viens pas déranger les gens comme ça parce que je suis timide en vérité. Mais je voulais savoir là, parce que depuis tout à l'heure, je vous regarde, vous êtes trop charmante. Oh, vous êtes verdoyante là, c'est pour ça, je voulais savoir, il y a moyen d'avoir un petit numéro vite fait?
Ben,
comme ça, on se capte.
T'as de quoi noter?
Non, mais prends mon numéro, comme ça.
Je te fais sonner, comme ça, t'as le mien. Vas-y.
06?
Ouais.
11? 40?
Attends, je lui pose la question ou pas, quand même? Parce qu'en fait, on avait une question avec ma copine. On se demandait si, avec cette technique toute pourrie, là, tu réussissais à serrer des meufs. Franchement, je suis trop timide. Vous êtes verdoyante. Déjà, on est verdoyante. Merci beaucoup. Franchement, ça fait super plaisir. Mais là, t'es à ton maximum, quoi. C'est ta meilleure technique. Et là, tu vas payer ton flunch, ton étapotel, tu vas me ken. Ou pourquoi pas nous ken toutes les deux en même temps,
vas-y,
hein, tu vois.
T'as cru que t'étais belle, là. Tu t'es pris pour une bombe.
Mais tu t'es vue, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un truc de ouf, là, non?
En réalité, ce n'est pas la première fois que les sociodémocrates allemands essaient de modifier la loi en la matière. Et c'est ce que nous explique Aminata Koulibaly.
En 2023, les partenaires de coalition du SPD au sein du gouvernement de centre-gauche se sont opposés à cette mesure. Les Verts et le FDP estimaient qu'une telle mesure serait à la fois impraticable et populiste. Une initiative du SPD au niveau des Länder, les régions, n'a pas réussi à trouver de majorité au sein de la Chambre haute du Parlement, le Bundesrat, au début de l'année 2025. En 2019, des jeunes femmes ont propulsé cette question du harcèlement sexuel verbal au premier plan. Inspirée par un précédent new-yorkais, une plateforme appelée Catcalls of Berlin a encouragé les femmes et les groupes minoritaires à documenter les cas de harcèlement de rue en inscrivant des phrases à la craie sur les trottoirs où les incidents se sont produits afin de sensibiliser le public à ce problème. Un an plus tard, en 2020, une étudiante de 20 ans, Antonia Quell, a réuni au Parlement une pétition qui avait recueilli plus de 72 000 signatures pour demander que le harcèlement sexuel verbal soit érigé en une infraction pénale.
Alors, est-ce que la législation est le bon moyen de s'attaquer au problème? Mohamed El-Hazi, qui est professeur de droit pénal allemand et européen à l'université de Trèves, souhaite par exemple que personne n'ait à endurer les commentaires aussi dégoûtants. Mais, en fait, lui, il préconise de miser sur l'éducation, la sensibilisation des gens à la maison et à l'école à ce que c'est que d'avoir un comportement approprié. Un exemple assez édifiant. En 2017, la Cour suprême allemande de Karlsruhe a annulé les poursuites engagées contre un homme de 65 ans qui avait dit à une enfant de 11 ans de venir avec lui parce que, je cite, il voulait lui toucher la chatte. Parce qu'en fait, les juges allemands ont estimé que ces propos ne contrevenaient pas à la législation allemande sur les insultes et qu'ils ne constituaient pas un abus sexuel à l'encontre de l'enfant puisque ce n'était que des paroles. En revanche, et puisqu'on est dans les exemples, traiter quelqu'un de trou du cul ou de con, par exemple, lui faire un signe qui montre que vous l'assimilez à un fou en vous tapotant la tête avec votre doigt, ça peut vous valoir une amende. James Whitman, un professeur de droit américain, explique que pour qu'un acte soit considéré comme une insulte en Allemagne, il faut que l'intention soit insultante. Or, ce qu'il explique, c'est que se rapprocher d'une femme peut être, et a étonnamment été interprété longtemps, comme un signe de respect pour son attrait physique. Et longtemps, ça a été même assimilé à un compliment plutôt qu'à une offense. Parce que le droit allemand sur l'insulte est en fait issu d'une tradition de protection de l'honneur personnel qui trouve ses racines dans le droit du duel. Or, ce code de l'honneur chevaleresque était généralement masculin. Alors qu'en est-il des lois contre le harcèlement de rue dans d'autres pays européens ? Bien, la Belgique a été le premier pays de l'UE à interdire le sexisme dans l'espace public. Une loi a été adoptée en ce sens en 2014 qui définit le sexisme comme des remarques ou des actes qui suggèrent une infériorité fondée sur le sexe et qui réduisent une personne à sa dimension sexuelle ou qui visent à exprimer du mépris envers cette personne. En 2016, le Portugal a érigé les abus sexuels verbaux en infraction. Une loi similaire a été introduite en France sur le harcèlement de rue 2 ans plus tard. Et plus récemment, l'Espagne et les Pays-Bas leur ont emboîté le pas. Au Royaume-Uni, une loi a été adoptée en 2023 pour mettre fin au harcèlement de rue sexiste, mais elle n'est toujours pas entrée en vigueur. En tout cas, le ministère allemand de la Justice dispose maintenant de nombreux exemples et d'expériences chez ses voisins européens pour rédiger un projet de loi adapté. C'est la fin de ce magazine. Merci à Julie Gregson, Mohamed Ibrahim et Nehal Jouri pour leur collaboration. Si vous voulez réécouter ce magazine, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.